Radio Kapi.
Le journal Pascal Masirika.
À la une ce midi, arrivé ce lundi à Bunia en Ituri du staff dirigeant de la MONUSCO, conduit par Bintou Keïta, ses hauts responsables de la mission onusienne en RDC arrivent dans un contexte marqué par l'intensification des attaques des rebelles ougandais de l'ADF contre les civils au sud du territoire du Rumu. Grogne à l'ordre judiciaire de la province du Sud Kivu, les agents et fonctionnaires des tribunaux de paix et de grandes instances réclament la suppression des zones salariales entre Kinshasa et les provinces, la promotion des agents et la prise en charge des nouvelles unités. Notre invité, c'est le directeur de cabinet du ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Séraphin Oumba, parle de la perception de la taxe RAM sur le registre des appareils mobiles que la RPTC prélève sur les comptes des utilisateurs de téléphones mobiles. Madame, Messieurs, bonjour. Tous les staffs dirigeants de la MONUSCO est attendu ce lundi à Bunia, conduite par Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Ses hauts responsables de la mission onusienne au Congo arrivent dans un contexte particulier marqué par l'intensification des attaques des rebelles ougandais de l'ADF contre les civils au sud du territoire du Rumu. Le phénomène d'activisme d'une groupe armée Codeco en territoire de Djougou et le déplacement des milliers de familles préoccupe également le leadership de la mission onusienne. Pour en parler, Martial Kizabiamungu nous appelle en direct de Bunia.
La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Madame Bintou Keïta, et sa délégation arrivent à Ituri au moment où la partie sud de cette province, sous état de siège, est en proie à la violence caractérisée par des attaques des ADF et autres maïmaï contre des civils. Ceci se passe surtout sur l'axe entre Komanda et Luna, que d'aucuns qualifient de l'axe de la mort. Ici, plus de 30 personnes ont perdu la vie en espace de moins d'une semaine. Beaucoup de véhicules ont aussi été incendiés par des ADF. Pendant ces temps, dans le sud du territoire de Djougou, des miliciens de la Codeco ont intensifié ces derniers jours des attaques contre l'armée dans plusieurs entités minières. Le leadership de la mission onusienne ne se penchera certainement aussi sur la question de la prochaine démobilisation communautaire des miliciens favorables au processus de paix. Sur le plan humanitaire, avec ses 64 sites des personnes déplacées, la province de l'Ituri enregistre à ce jour 1 700 000 déplacés internes vivants sur des sites et dans des familles d'accueil, selon OCHA. Une situation qui va attirer l'attention de cette délégation. Dans son agenda, Madame Bintou Keïta va rencontrer cet après-midi les gouverneurs des provinces avant d'avoir une séance de travail avec les animateurs de la cour militaire de l'Ituri. Bunia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
On reste en Ituri où des miliciens de la Codeco ont attaqué ce lundi matin une position des FRDC au centre commercial de Kobu, secteur de Walendu-Djati, dans le territoire de Djougou. Des sources sécuritaires rapportent que les assaillants sont venus des villages voisins, dont Goti, pour tenter de déloger les FRDC qui contrôlent ce centre de négoce. Le bilan provisoire qui a été dressé par les sources coutumières fait état de 4 morts et de 10 blessés. Ses côtés assaillants. Cette nouvelle n'est pas encore confirmée par les FARDC. Le récit d'Ezekiel Mouzalia.
C'est vers 4h du matin que les habitants des Bambou et Kobu, deux entités proches, se sont réveillés sous des tirs nourris des belligérants. Ces détonations d'armes lourdes étaient entendues dans les secteurs de Walendu-Djati en chefferie de Mambisa. Ces miliciens ont surpris une personne dans la zone qu'ils ont assimilée à un militaire des FARDC qui était allé puiser de l'eau, nous précisent des sources locales. Par la suite, ils ont progressé vers une position des militaires FARDC installés dans ces centres commerciaux qu'ils ont attaqués depuis les petites heures de la matinée. Du coup, ça n'est suivi un échange des tirs entre les deux parties. Le bilan provisoire avancé par une autorité coutumière fait état de 4 assaillants neutralisés et 6 autres grièvement blessés. Une situation qui a créé une psychose dans la zone, indique le chef du secteur de Walendu-Djati qui s'inquiète néanmoins du sort des populations qui ont pris fuite dans la brousse. Pour l'instant, le centre de Kobu est toujours contrôlé par l'armée, mais un membre de la société civile nous informe que ces assaillants seraient toujours dans la périphérie. Contacter le porte-parole de l'armée en Ituri promet des agir ultérieurement sur le déroulement de ces opérations. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
En plus bref, le bilan de l'attaque de vendredi dernier au village de Samboko Itilemba dans les territoires de Walesevonkutu, dans la chefferie de Walesevonkutu, est revu à la hausse. Selon la société civile locale, il passe de 14 morts à 33 civils tués par des présumés rebelles ougandais de l'ADF. L'administrateur du territoire du Rumu affirme que d'autres corps des victimes ont été retrouvés lors de la fouille menée par la population. Le colonel Jean Siro dit qu'il est difficile pour le moment de confirmer s'il s'agit des otages ou des habitants. En attendant, un calme précaire règne dans la région, renseigne un membre de la société civile de la chefferie de Walesevonkutu. Il précise qu'il s'agit du bilan des personnes tuées depuis vendredi dernier par ces rebelles. Les activités économiques tournent au ralenti depuis ce lundi matin à Butembo, au Nord Kivu. C'est suite à l'appel de certaines associations et groupes de pression qui ont appelé la population à observer 2 jours sans activité pour protester contre la montée de l'insécurité à Beni et en Ituri. Pour en parler, retrouvons à Butembo Grévy Salumu.
Au marché central de Butembo, seules les activités liées au petit commerce ont fonctionné normalement. Les marchandises sont installées sur les étalages comme d'habitude. Par contre, les magasins, galeries de vente, officines pharmaceutiques ainsi que les banques sont fermées. Devant ces établissements, on peut voir les responsables les bras croisés en train de discuter entre eux. Ils disent observer l'évolution de la situation. Sur les routes, les conducteurs de motos exercent leurs activités, mais la plupart n'ont pas enfilé leur gilet d'identification. Même cas pour les agences de transport, plus particulièrement ceux qui fréquentent la route Butembo-Goma. Aucune marche n'est jusqu'à la signalée à travers la ville. Par ailleurs, dans la périphérie de la ville, les activités se déroulent normalement. Contactés, les commandants intérimaires de la police affirment que la situation est sous contrôle. Le commissaire supérieur principal Paul Ngoma appelle la population à vaquer librement à ses occupations. Butembo, Grévis Salumu, Radio Okapi.
Et puis, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais de l'ADF a coûté la vie à 2 personnes dans le village de Moussamambou, dans les territoires de Beni, hier dimanche. Selon la nouvelle société civile du Congo, du territoire, il parle plutôt d'un bilan provisoire et plusieurs autres civils ont été pris en otage par les assaillants dans la vallée de Mwalika, dans la chefferie de Bachou. Son coordonnateur, qui s'est dit préoccupé par cette situation, invite les autorités militaires à équiper les FARDC afin de faire face à l'ennemi. Moïse Kipoul Toulou a été joint par André Kitenge.
Hier, les avant-midi, il y a eu une incursion des ADF dans les Grabens, dans les parages de la vallée de Mwalika. C'est à Moussamambou, communément appelé Auberge, où l'ADF a fait la loi à tuer des civils jusqu'à présent, c'est encore provisoire. Et elle a réussi à prendre en otage plusieurs cultivateurs qui faisaient les champs dans les Grabens de Mwalika. C'est une situation qui est en train de nous inquiéter car la zone de Mwalika est aussi militarisée par des militaires qui sont engagés à la traque des ADF, mais voilà que la population entre les périls et entre les civils des exactions des ADF, au moment où les militaires sont déclarés victoires sur l'ennemi dans cette même vallée. C'est pourquoi nous appelons au gouvernement de voir comment fournir encore des fonds tout en ravitaillant ces militaires et en équipant ces militaires à billets et matériels appropriés et afin de changer même la stratégie pour une stratégie adaptée à l'ennemi afin de les neutraliser concrètement.
Notez que tous nos efforts pour rejoindre le porte-parole des opérations Sokola 1 n'ont pas abouti. Nord Kivu encore, l'auditoire militaire de Beni vient d'achever l'instruction du dossier de 6 officiers arrêtés au mois de juillet dernier à l'issue d'une mission de contrôle de 3 jours menée par l'inspection générale des FARDC. Ces officiers supérieurs sont membres de l'état-major du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord et de la 32e brigade des unités de réaction rapide. Ils sont accusés d'avoir surfacturé l'achat des vivres destinés aux militaires déployés dans les opérations contre les rebelles ougandais de l'ADF et d'avoir gonflé les listes de paye des militaires. Selon des sources judiciaires, le dossier a été transmis à l'auditorat supérieur près la cour militaire de la province. La situation humanitaire est préoccupante dans la région de Beni et dans les territoires de Massissi et ses environs. Plus de 700 000 déplacés sont enregistrés à Beni, alors qu'à Massissi, plus de 80 000 personnes sont en errance et manquent de tout. Constat fait par la coordonnatrice humanitaire adjointe en RDC après sa mission de travail effectuée à Beni la semaine dernière. Suzanne Kalek a fait remarquer que la capacité d'intervention des humanitaires est très limitée alors que les besoins sont énormes. Elle est au micro de Sifa Magrou.
La situation est vraiment très difficile, très préoccupante. Plusieurs des personnes avec qui ont partagé leur histoire avec nous, ont perdu leur famille, leur mari, leurs enfants. Ils se trouvent apparemment dans une situation de vulnérabilité extrême. Vous avez des personnes qui se sont déplacées entre le mois de juin et de juillet. Nous avons eu presque 80 000 personnes qui se sont déplacées dans le territoire de Massisi. Ils continuent d'arriver.
Qu'est-ce que vous promettez à ces populations qui souffrent beaucoup?
Il y a déjà des assistances humanitaires, mais ça n'est pas suffisant. Ça, ce que nous devons faire, c'est de faire beaucoup plus de plaidoyer, aussi pour s'assurer qu'il y a des fonds en plus, parce que les besoins sont énormes. Et malheureusement, le HRP, le fonds humanitaire, le plan humanitaire pour la RDC, est financé à moins de 30% seulement. Et ça fait que nous trouvons dans une situation que nous ne pouvons pas adresser tous les besoins.
Elle ajoute que l'accès aux déplacés reste un défi majeur. La communauté humanitaire a déjà perdu au moins 5 travailleurs et d'autres kidnappés ou blessés depuis le début de cette année, a déploré Madame Suzanne Kalek. Dans la province du Tanganyika, la mission onusienne partie pour la sensibilisation de la communauté locale au processus de retrait de la MONUSCO a pris fin samedi dernier à Kabinda, localité située à 60 km de la ville de Kalemi. La société civile et les autorités locales ont soulevé à l'occasion des préoccupations qui doivent être réglées avant le désengagement de la MONUSCO de la région. François Xavier Mibé revient de la zone. Voici son reportage.
La mission de la MONUSCO sur Kabimba a composé 4 sections. Les affaires civiles, la section de démobilisation, désarmement et réinsertion, la police des Nations Unies et l'information publique. Pendant plus ou moins une semaine, la mission a consisté à rapprocher les dirigeants des dirigés afin de renforcer à la fois le niveau de collaboration entre les groupes que compose la communauté des Kabimba. À cet objectif s'ajoute le renforcement des synergies pour atteindre les bons résultats et la résilience communautaire qui appelle à l'engagement de toutes les couches. Un membre de la société civile locale identifie les menaces.
L'impunité des auteurs des vols à mains armées dans le lac Tanganyika. Arrestation de personnes sans billet de coup par la PNC.
La localité de Kabimba est devenue le chef-lieu du territoire des Kalemi depuis l'avènement de la loi sur la décentralisation amorcée en RDC. Kalemi, transformée en une ville, a vu naître la mairie et comme chef-lieu du territoire a été délocalisé à Kabimba. La mission est arrivée ainsi à une conclusion telle que la localité de Kabimba n'a pas de groupes armés identifiés, mais reste par moments affectée par l'activisme d'un leader toi du groupe Mai Mai Apanapale, un certain Liwa, qui provient de la carrière de Nyangé pour le ravitaillement de ses hommes. Des retours de Kabimba, François Djabemibé, Radio Okapi.
Dans un autre chapitre, au Sud Kivu, les agents et fonctionnaires de l'ordre judiciaire ont entamé ce lundi une grève d'une durée indéterminée dans les tribunaux de paix et des grandes instances de la province. Ils réclament la suppression pure et simple de zones salariales entre Kinshasa et certaines provinces du pays, la promotion des agents et la prise en charge des nouvelles unités. Des précisions avec le président de leur délégation syndicale, Jacques Moussafiri, a été joint par Emmanuel Elamejo Kabedi.
Nous sommes du pouvoir judiciaire. Mais aujourd'hui, des fois nous sommes à la fonction publique, des fois nous sommes au pouvoir judiciaire. C'est pourquoi nous avons demandé que nous soyons remis au pouvoir judiciaire. Deuxième revendication, messieurs les journalistes, nous ne sommes pas payés. Nous avons le numéro matricule. Il y a ceux qui touchent la prime, mais ne touchent pas le salaire. Il y a ceux qui touchent le salaire et la prime, mais minime. Il y a nos collègues qui ont déjà fait trentaine d'années. Ils ne sont pas promis au grade supérieur. Ça, c'est inconcevable. Et régulariser la situation administrative de bon nombre d'agents qui n'ont pas bénéficié des numéros matricules et dont les dossiers se trouvent au secrétariat général. Nous avons demandé aussi la suppression des zones salariales dans l'attribution des primes au personnel de Kinshasa Lubumbashi qui sont favorisés au détriment des autres provinces. Ce n'est que nos collègues de Kinshasa, Lubumbashi, qui sont mieux payés, alors que nous tous, nous sommes d'une même catégorie. La grève commence aujourd'hui le 6, mais la date qui doit prendre fait, nous n'avons pas cette précision. À moins que notre employeur puisse répondre favorablement à nos désidératas. Nous ne voulons pas quémander toujours derrière les justiciables, derrière les avocats.
Notez qu'à la cour d'appel de Bukavu, cet arrêt de travail risque d'impacter la tenue des audiences, la signification des exploits et d'autres décisions de justice aux parties concernées. Au Maniema voisin, les 11 personnes acquittées par le tribunal des grandes instances de Kindu samedi dernier dans le dossier de l'assassinat du médecin chef de la zone des santé de Lusangi sont transférées à l'auditoire militaire et mis sous mandat d'arrêt provisoire pour participation à un mouvement insurrectionnel. C'est confiant à Radio Okapi, l'un des avocats dénonce et parle d'une violation de l'article 83 du code de procédure judiciaire. Maître Kiyombo Wandema est au micro de Florence Kizalunga.
Ces prévenus-là qui se retrouvent aujourd'hui en situation de détention illégale dans la prison centrale, sous l'œil impuissant des autorités tant judiciaires que politico-administratives. En principe, le parquet ou le ministère public est une des parties au procès. Alors en droit, lorsque l'on est mécontent d'une décision, on ne peut qu'appeler cette décision-là, c'est-à-dire contester la décision devant les juges supérieurs, au lieu de se rebeller contre son exécution, comme c'est le cas sous examen. Ces gens là font l'objet d'un mandat d'arrêt provisoire. C'est une violation flagrante des droits humains. Ils sont sous MAP pour des faits qu'ils ignorent, pour des faits dont ils n'ont pas encore comparu. Mais le parquet général va transférer les dossiers à l'auditorat pour que celui-ci instruise des nouveaux faits, savoir la participation à un mouvement insurrectionnel. Et donc nous demandons aux autorités de faire en sorte que ces gens-là qui ont été bénéficiaires d'un jugement les acquittant puissent être mis en liberté. Et si le parquet va les chercher pour d'autres faits, le parquet va amorcer la procédure.
Actualité internationale.
En Guinée, un comité national du rassemblement et du développement dirigé par le chef des forces spéciales, le lieutenant-colonel Mamadou Doumbouya, annonce avoir arrêté Alpha Condé. C'est lui qui a dirigé la Guinée pendant 11 ans, a marqué la vie du pays pendant un demi-siècle. Une carrière à rémonissement durant laquelle il aura connu l'exil, la prison et le pouvoir suprême. L'Iran a condamné ce lundi matin l'assaut des talibans contre la ville de Panjshir en Afghanistan, dernier foyer de la résistance au mouvement fondamentaliste islamiste qui en a pris le contrôle. L'Iran fait remarquer que la situation qui prévaut actuellement au Panjshir est inquiétante et mérite une attention de la communauté internationale. 6 prisonniers palestiniens, dont un ex-leader de la branche armée du mouvement Fatah, se sont évadés tôt ce lundi matin d'une prison située dans le nord est d'Israël via un tunnel qui a été creusé sous un évier selon les autorités locales. Dans la foulée, la police a lancé une vaste chasse à l'homme épaulée par l'armée qui a mis à sa disposition des dispositifs d'observation aérienne.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur de cabinet du ministre des Postes, Téléphones et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Séraphin Oumba parle de la perception de la taxe sur le registre des appareils mobiles que l'ARPTC prélève sur les comptes des utilisateurs des téléphones mobiles. Il s'entretient avec Billy Van Lutumba.
Monsieur Séraphin Oumba, bonjour.
Bonjour, monsieur Ivan.
En quoi consiste la taxe sur le registre des appareils mobiles RAM? À combien s'élève cette redevance et elle se paye durant quelle période?
J'aimerais pas qu'on se mette dans la tête plus la notion des taxes. Je préfère qu'on parle des redevances. Elle consiste d'abord à appuyer l'achat du matériel qui nous sert à récolter les données, donc les registres, à entretenir les registres et à les parfaire aussi. Et aussi à développer le secteur des télécoms. À combien ça se paye? Ça se paye à 1 $ l'an pour les téléphones 2G et 7 dollars l'an pour les téléphones 3G, 4G et autres. Particulièrement, on n'a pas voulu prélever une fois pour toutes pour l'an les 1 dollar et les 7 dollars selon les cas. Nous avons séquencé cela pour prélever les 1 dollar pendant les 6 premiers mois et les 7 dollars pendant les 6 premiers mois. Ce qui fait que pour ceux qui doivent payer les 1 dollar, ils payent par mois 0,17 dollars et ceux qui devraient payer 7 dollars payent 1,17 dollars le mois et pendant 6 mois.
Des Congolais continuent à s'interroger sur cette redevance, particulièrement sur sa base juridique. Quelle réponse pouvez-vous donner ?
La base juridique est bel et bien là, la loi qui crée l'autorité de régulation des télécoms, l'APTC. Cette loi précise à son article 21 que l'APTC fait payer ses prestations, fait payer aussi d'autres éléments, mais les prestations, là ici ça me concerne les prestations. Parce que ici, l'APTC qui a acheté cet appareil et qui met le mécanisme de blocage des téléphones, qui met le mécanisme pour écarter sur les réseaux les téléphones contrefaits, qui met d'autres mécanismes tout autour, fait payer ses prestations-là. Ce sont en fait les prestations de l'APTC que nous considérons ici conformément à la loi qui crée l'autorité de régulation des postes et télécoms. Mais maintenant, à cet article même 21 là, il est dit que pour percevoir les prestations, le Premier ministre doit prendre un décret. Et ce décret a été pris en 2020 en modifiant l'arrêté qui a déjà été pris dans ces domaines-là, sur d'autres prestations, en 2012, à l'époque d'ailleurs du Premier ministre Mouzito, et que actuellement on a fait adapter, modifier l'arrêté 0012/15 du 20 février 2012. Que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a pris un autre décret qui modifie celui-là en date du 9 mars 2020. Et le ministre, lui qui est le patron du secteur, n'a fait que prendre un arrêté pour compléter cet aspect de choses.
Ne trouvez-vous pas qu'il y a incompatibilité par rapport à la dénomination de la taxe, registre des appareils mobiles, par rapport à la finalité même de cette taxe?
Bon, l'appellation a été trouvée par l'RPTC. On pouvait aussi l'appeler autrement. Je crois que c'est une question d'appellation, registre des appareils mobiles. On pouvait aussi l'appeler seulement système CIR, comme ça s'appelle partout. Mais ici, c'est une trouvaille congolaise. Ça, c'est une question sémantique. On l'aurait aussi appelé autrement. Peut-être ça fâcherait moins. Mais l'objectif, c'est ça, c'est qu'il y a des prestations que l'État rend et que ça nécessite d'être payé.
C'est combien déjà que vous avez déjà perçu jusque-là comme fonds provenant de la taxe RAM?
Nous allons faire des exclamations comme vous et moi, mais ici c'est au ministère de Pétentique. Ce qui est donné à l'État ne passe pas par le ministère de Pétentique. C'est les fonds gérés par la RPTC et que s'il faut faire la bonne transabilité, c'est la DGRAD qu'il faut aller poser des questions. Mais nous, avec l'exclamation, on peut se dire, bon, ceux qui dépensent 1 dollar l'an sont au nombre de 2. Je crois que c'est les plus nombreux. Et ceux qui doivent payer 7 dollars l'an sont au nombre d'autant. Donc, nous pouvons faire des estimations autour de ça, mais palper directement cela, ce n'est pas à ce niveau qu'on gère. Les services appropriés, soit c'est la DGRAD, soit c'est la RPTC, où on peut avoir la bonne réponse sur les chiffres engagés.
Et combien d'utilisateurs sont déjà enregistrés jusqu'à présent? Avez-vous une idée?
Nous sommes dans les 38 millions, je crois, 38 millions.
Et présentement, ces fonds sont affectés à quoi?
Non, les fonds sont affectés pour le développement du secteur. Et aujourd'hui, à part le Wi-Fi qu'on vient de placer, nous avons aussi la connexion des écoles, l'interconnexion des écoles avec les partenaires congolais, les Scoolab, qui a créé la connexion de plus ou moins 500 écoles primaires et secondaires. Donc aujourd'hui, on est à même en septembre de pouvoir donner les cours en ligne comme les autres l'ont fait pendant cette période de Covid.
Et là, ça se passe où? À Kinshasa ou dans d'autres villes? Est-ce que ce que vous dites là, c'est un projet ou bien ça se fait?
Non, je vous ai dit le lancement. On a signé le protocole de cela 3 semaines. C'est toujours avec l'argent des RAM, l'argent que les Congolais donnent.
C'est Raphaël Omba, directeur du cabinet du ministre des Pétentiques. Merci.
Je vous remercie, monsieur le journaliste.
Séraphin Oumba, qui est le directeur de cabinet du ministre de Pétentique, était interviewé pour nous par Billy Valutumba et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. Merci à Noël Alouzi Toukabambi qui l'a coordonné sous la supervision éditoriale de Pelikipela Mondo. Retrouvez ce journal sur www.radiokapi.net.